Et à la une en Israël avec vous, ma chère Lise, on va s'intéresser maintenant aux relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, si j'ai bien tout compris. Et je vous laisse le soin, bien sûr, de nous le confirmer et de nous présenter notre invité.
Alors, on est en ligne avec David Kalfa. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. David Kalfa, qui est co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Donc, aujourd'hui doit avoir lieu la réouverture de l'ambassade. Et est-ce que c'est un peu plus inquiétant, moins inquiétant? Ça change rien dans la région ou par rapport à Israël, David, à cette réouverture de l'ambassade?
Elle s'inscrit dans le rétablissement des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran après une interruption de 7 ans, donc quasiment une décennie. Donc c'est très significatif et c'est le reflet de changements structurels dans la région qui s'explique assez largement par le désengagement américain au Moyen-Orient et puis par les tensions entre l'administration Biden et le prince héritier et désormais premier ministre Mohamed bin Salman.
Alors, c'était quand même une... Allez-y.
Non, ce que je voulais ajouter, c'est que par ailleurs, évidemment, cette redistribution des cartes géopolitiques, elle a un impact sur Israël, puisque Netanyahou avait fixé comme objectif prioritaire en matière de politique étrangère deux aspects. Le premier, c'était évidemment faire en sorte que l'Iran ne puisse pas se doter de l'arme atomique. Et le deuxième, c'est l'élargissement du cercle des pays signataires des accords d'Abraham avec donc la volonté de signer un accord avec les Saoudiens. Or, ce rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite semble quand même remettre en question cette stratégie et l'éloigne de la signature d'un accord avec les Saoudiens, en tout cas dans un avenir proche.
Oui. Alors, c'était un peu une surprise, David, cette réconciliation de Riyad et de Téhéran en mars dernier, et ça s'est fait sous le parrainage de la Chine. On n'attendait pas comme ça un engagement de Pékin au Moyen-Orient.
Les Chinois sont extrêmement pragmatiques, c'est-à-dire qu'ils ils veulent étendre leur influence partout où les Américains se retirent. Et donc, le vide géopolitique laissé par les Américains au Moyen-Orient, après notamment le retrait américain de l'Afghanistan, a laissé aux Chinois une place qu'ils se sont empressés de prendre. Et je pense que par ailleurs, pour les Saoudiens en tout cas, c'était une façon aussi de dire aux Américains que désormais leurs intérêts stratégiques n'étaient pas nécessairement alignés sur Washington après avoir été traités comme des parias par l'administration Biden. C'est une forme de vengeance des Saoudiens qui se donnent aussi une marge de manœuvre vis-à-vis des Américains, c'est-à-dire qu'ils veulent montrer aux Américains que ce ne sont plus leurs obligés. Et désormais, ils choisissent leurs alliés en fonction de leurs intérêts stratégiques du moment. Et on voit bien d'ailleurs finalement que ce rôle joué par la Chine n'exclut pas nécessairement à l'avenir, évidemment, l'influence des Américains au Moyen-Orient. On voit bien que ces dernières semaines, par exemple, que les Américains sont rendus à plusieurs reprises à Jeddah, dans le sud de l'Arabie Saoudite, d'une part pour essayer de renouer avec les Saoudiens, et d'autre part pour accélérer un processus de normalisation avec Israël.
Alors, on dit que c'est Riyad qui gagne le plus, est-ce que vous êtes d'accord, David?
Il n'y a pas de doute sur le fait qu'ils sont dans une position de force aujourd'hui. Enfin, MBS se sent en position de force, puisqu'il est courtisé à la fois par l'administration Biden, on voit bien que Blinken, par exemple, lors du congrès de l'AIPAC, très récemment, a affirmé qu'une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite relevait d'un intérêt national, de sécurité nationale, un intérêt de sécurité nationale pour les Américains. Et puis, par ailleurs, Netanyahou, qui est pris au piège dans une réforme du système judiciaire qui a déclenché une levée de boucliers en Israël avec des manifestations de masse chaque week-end. Lui aussi a besoin d'un succès en matière de diplomatie. Et donc, bien sûr qu'il est que les Saoudiens sont aujourd'hui en position de force. Et puis par ailleurs, ce qu'il faut rappeler évidemment, c'est que l'invasion russe de l'Ukraine a aussi modifié l'équation géopolitique régionale et internationale, puisque aujourd'hui les pays européens, notamment les Américains, insistent auprès des Saoudiens pour qu'ils maintiennent un niveau élevé de production du brut pour faire baisser le cours du brut, et les Saoudiens s'y refusent.
Alors, c'est pas que pour Israël que ça va avoir des conséquences. Évidemment, on attend rapidement aussi peut-être des conséquences en Syrie et au Liban, David.
Oui, alors là aussi, c'est pour moi ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec le sommet de la Ligue arabe qui s'est tenu à Jeddah dans le sud de l'Arabie saoudite. C'est aussi le reflet d'une volonté saoudienne de se démarquer, si vous voulez, de la politique étrangère américaine, de prendre des distances vis-à-vis de Washington, puisque Washington s'oppose à une normalisation, à un retour dans le giron arabe de Bachar al-Assad. Or, les Saoudiens, justement, ont, avec ce sommet de la Ligue arabe, réintégré en grande pompe Bachar al-Assad dans le giron arabe. Donc, on voit bien que là aussi, en fait, il y a vraiment une volonté des pays du Golfe, et notamment du poids lourd régional qui est l'Arabie saoudite, de marquer sa prise de distance vis-à-vis de Washington. Les Saoudiens se comportent comme un acteur régional de premier plan, et ils veulent même désormais s'imposer comme un médiateur. Donc, d'ailleurs, ce retour de Bachar al-Assad dans le giron arabe n'exclut pas nécessairement à l'avenir un accord de paix entre Israéliens et Saoudiens, parce que les Saoudiens ont adopté une stratégie de multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'ils veulent parler à tout le monde, aussi bien aux Iraniens qu'aux Israéliens.
Ma dernière question, David, le Yémen va-t-il servir de test en fait à cette réconciliation, puisque on le sait, depuis 2015, les Saoudiens et les Iraniens sont par relais interposés dans cette guerre, puisque les rebelles houthis sont soutenus par l'Iran et le gouvernement loyaliste par l'Arabie saoudite.
Alors là aussi, oui. D'ailleurs, au fond, le Yémen, c'est un peu le crash test de la détente irano-saoudienne, parce que les Saoudiens, si vous voulez, Mohamed Ben Salman, son objectif stratégique premier, c'est d'accélérer, de consolider la transformation de l'économie saoudienne pour passer d'une économie rentière à une économie productive. Pour ça, il a besoin justement de temps, il a besoin de stabilité, d'où l'accord avec les Iraniens qui au fond, consiste à acheter du temps aux Iraniens, acheter de la stabilité dans la région. Donc le Yémen sera nécessairement impacté parce que cette guerre irano-saoudienne au Yémen, au fond, c'est un conflit endémique dont on ne voit pas l'issue. En tout cas, sur le plan militaire, il n'y a pas de solution militaire. C'est un échec de ce point de vue pour les Saoudiens. Et donc, l'outil diplomatique peut leur permettre de trouver une porte de sortie par le haut et de se concentrer, si vous voulez, sur leurs objectifs qui sont, encore une fois, la transformation structurelle de l'économie saoudienne pour s'imposer dans les décennies à venir comme vraiment la puissance régionale avec laquelle il faut compter au Moyen-Orient.
Merci beaucoup, David Kalfa, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Bonne journée.
Merci, au revoir.